Bien, bonsoir. Nous allons commencer sans tarder pour laisser un bel espace de parole à notre invité. Donc, nous avons ce soir le grand plaisir de recevoir ici Céline Flory, qui est historienne, chargée de recherche au CNRS, rattachée dans un laboratoire qui se trouve à l'EHESS à Paris, le CERMA, et qui est également membre du bureau du Centre international de recherche sur les esclavages, et qui vient nous parler ce soir de ses recherches sur des migrations de travail singulières qui ont pris place au XIXe siècle, à savoir l'engagisme d'Africains recrutés par le gouvernement français en tant que travailleurs théoriquement libres pour remplacer dans les plantations caraïbéennes la main-d'œuvre servile après l'abolition de l'esclavage en 1848. Alors, trois remarques avant de lui laisser la parole. Tout d'abord, son ouvrage, donc intitulé « De l'esclavage à la liberté forcée, histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle », qui est donc paru tout récemment, a reçu en novembre 2015 un prix prestigieux, le prix de recherche FETCAN. Sachant qu'en plus, il est tiré d'une thèse soutenue en 2011 qui elle-même avait déjà été au moins par deux fois primée. Donc voilà, vous accumulez les prix tout à fait remarquables. D'autre part, au sein de ce cycle de conférences, je voudrais faire remarquer que ce soir, donc, nous aurons un nouveau regard sur cet espace caraïbe et sur le spectre de l'esclavage, après celui de Christine Chivalon, que nous avions reçue l'année dernière pour nous parler de la mémoire de l'esclavage dans ce même espace. Et puis, après la toute récente conférence de Pape Ndiaye, alors sur un sujet un peu différent, puisque c'était l'émancipation politique des Noirs aux États-Unis d'Amérique, deux conférences qui constituent des approches croisées, complémentaires aussi de votre propos, et que vous pouvez retrouver en ligne, je pense qu'elles le sont déjà. Troisième et dernière remarque, les recherches donc de Céline Flory, au-delà de cet espace caraïbéen, nous s'inscrivent dans un champ d'études que nous avons encore peu rencontré au cours de la programmation de cette année, celui des migrations contraintes, des migrations forcées, et que nous allons retrouver un petit peu plus tard, au mois de mars, le 21 mars, lorsque nous recevrons Juliette Denis, une autre historienne, qui viendra nous parler des déplacements forcés qui ont cette fois pris place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale dans l'espace est-européen. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci.
Merci, bonsoir à tous. Est-ce que ça va au niveau du micro? Tout d'abord, je tiens à vivement remercier Anoush Kunt, j'espère que je prononce bien, du laboratoire Migrinter, ainsi qu'Anne Piriou et l'espace Mendes France pour leur invitation à venir vous présenter mon travail. Donc, ce travail que je vais vous présenter ce soir résulte majoritairement des recherches que j'ai conduites dans le cadre de ma thèse d'histoire. Donc, thèse qui vient d'être publiée dans l'ouvrage qui est là. Dans le temps qui m'a imparti, je ne pourrais pas aborder tous les aspects qui sont développés dans l'ouvrage. Donc, j'ai choisi trois grandes questions qui vont nous permettre de retracer l'expérience migratoire de travail et de vie de ces engagés, entre guillemets, africains qui s'établirent, en fait, pour la quasi-totalité d'entre eux, définitivement à la Guyane et aux Antilles françaises. Alors, nous verrons tout d'abord pourquoi le gouvernement français choisit de recourir à ce qui est appelé à l'époque l'immigration de travailleurs extérieurs sous contrat d'engagement de travail, autrement dit l'engagisme, dans les années suivant l'abolition de l'esclavage. Ensuite, nous verrons quelles sont les méthodes mises en place pour recruter, engager et acheminer ces travailleurs africains jusqu'aux colonies d'Amérique. Et enfin, nous verrons comment ces nouveaux venus vont-ils travailler, vivre et s'insérer dans leur colonie d'arrivée. Donc, tout d'abord, pourquoi ? Alors, suite à l'abolition de l'esclavage, qui est décrétée le 27 avril 1848, les autorités métropolitaines et coloniales, en accord avec les grands propriétaires terriens, appelés planteurs, élaborent une réorganisation du travail colonial, qui prend soin d'éviter la mise en place d'un salariat, bien que maintenant le marché du travail soit libre. Donc deux décrets dont je vous ai mis les intitulés ici, celui du 13 février et celui du 27 mars 1852, posent les cadres de cette réorganisation du travail qui s'articule autour de deux grands axes. Un premier, l'établissement du travail forcé pour les ex-esclaves, et le second est le recours à l'engagisme, c'est-à-dire l'introduction dans ces colonies d'une main-d'œuvre extérieure arrivant munie de contrats d'engagement de travail de plusieurs années. Donc, contrairement à l'argument véhiculé par les planteurs et longtemps repris dans l'historiographie, le manque de travailleurs n'est pas la raison du recours à l'engagisme. En effet, le problème qui va se poser aux planteurs, ce n'est pas tant que les ex-esclaves aient quitté les habitations. Les habitations, c'est ce qu'on peut aussi appeler les plantations. Ce qu'ils n'ont en fait majoritairement pas pu faire, mais c'est qu'ils refusent de travailler aux mêmes conditions qu'avant. Donc en effet, dans cette décennie post-esclavagiste, on a en fait deux modèles de société qui s'affrontent, celui des ex-esclaves qui prônent le salariat libre, l'accès à la terre et aussi l'autoproduction et du travail colonial. Ce que j'appelle travail colonial, c'est la production intensive de produits destinés à l'exportation vers la métropole. Pour les Antilles, c'est majoritairement la canne à sucre. Donc du travail colonial, mais intermittent, c'est-à-dire quelques jours par semaine et pas toute la semaine. Et donc ça, c'est le projet, si on peut dire, ou en tout cas le modèle de société que défendent les ex-esclaves. Et en miroir, on a le projet des planteurs qui, eux, souhaitent maintenir autant que possible les structures socio-économiques de la période esclavagiste. Et pour faire triompher leur modèle, les planteurs, qui vont être soutenus par les autorités, obtiennent tout d'abord l'instauration du travail forcé, à travers notamment l'instauration du port du livret obligatoire et une définition du vagabondage extrêmement étendue, rendant, par rapport à la définition en métropole, rendant toute personne n'ayant pas un engagement de travail clairement établi susceptible d'être en état de vagabondage. Mais la résistance des ex-esclaves à celui-ci les met en échec. Et aussi, afin d'exercer sur ces derniers une concurrence et une pression à la baisse sur les conditions de travail et de rémunération, et de contrer ainsi en fait leurs revendications sociales et politiques, le gouvernement français, les autorités locales et les planteurs décident de recourir à l'engagisme. Donc avec l'autorisation du ministère de la Marine et des Colonies, des négociants privés vont recruter des travailleurs, comme vous pouvez le voir ici, en Inde, en Chine et en Afrique, auxquels théoriquement ils proposent de signer un contrat d'engagement dans lequel ces derniers s'engagent à travailler pendant plusieurs années pour le compte de la personne qui achètera leur contrat une fois aux colonies. Selon les termes de leur contrat, qui est conclu donc avant leur départ, leurs frais de transport sont pris en charge et ils ont droit au rapatriement en fin de contrat. Durant leur engagement, leur employeur, qui est dénommé engagiste, leur doit un salaire ainsi que le logement, la nourriture, le vêtement et les soins. En échange, les engagés fournissent leur force de travail. Donc le contrat d'engagement, ça c'est un point très important, et qui conclut, est insécable. Donc ils s'engagent pour plusieurs années, ils ne peuvent jamais rompre le contrat d'engagement. Donc ainsi, les engagés vont constituer une main-d'œuvre relativement fixe, puisqu'ils sont logés sur leur lieu de travail, appelé les habitations, dépendant de leur engagisme et à bas salaire, mais nous y reviendrons plus avant. Alors il faut souligner ici la spécificité de l'engagisme africain, donc des travailleurs, enfin des personnes nées en Afrique. J'entends africain, personne née sur le continent africain. Donc par rapport à l'engagisme tel qu'il est défini au départ, c'est-à-dire selon le décret ministériel du 27 mars 1852. Dans celui-ci, il est notifié que l'engagisme doit reposer sur le principe de la liberté individuelle. L'article 8 du décret note en effet, je vous l'ai mis dans son intégralité ici, je cite, « Un agent veillera aux opérations du recrutement et à l'embarquement des immigrants. Il ne délivrera de permis d'embarquement aux immigrants que si, interrogé individuellement, il déclare consentir, en pleine connaissance de cause, à se rendre dans la colonie pour laquelle ils sont recrutés. » Fin de citation. on voit bien que le recruté doit donc être libre, s'engager volontairement et être au fait des conditions de son engagement. Donc ceci n'est absolument pas le cas des 93% des 18 520 engagés africains qui seront débarqués à la Guyane et aux Antilles françaises entre 1854 et 1862. En effet, cette migration, comme vous pouvez le voir là, se composait de deux courants migratoires distincts. Donc un premier entre 1854 et 1857, où les recrutements s'effectuaient le long du littoral ouest africain. Je vous ai mis les points ici, enfin les villes plutôt, les villages. Le long du littoral ouest africain, au sein de populations africaines jouissant d'un statut libre. Et cela représente 7% de l'ensemble des engagés africains. Et un second courant, c'est là la spécificité, elle réside dans ce second courant, donc entre 1857 et 1862, où les recrutements s'opéraient au sein de populations africaines de conditions captives avec la méthode dite, je cite, du rachat préalable de captifs. Donc par ce procédé, les recruteurs français achetaient des captifs sur des marchés d'êtres humains pour leur imposer un contrat d'engagement de travail de 10 années à effectuer outre-Atlantique. Contrat sur lequel ces derniers figuraient comme noirs libres. Vous avez le terme là où il y a la flèche. Donc ce contrat d'engagement, donc vous avez un exemple ici, avec celui qui a été dressé pour Kilumamba, donc un jeune homme de 23 ans, représente un véritable artifice juridique, puisque dans ce processus, l'engagé, entre guillemets, n'a aucunement son mot à dire. Il est acheté, et de cet achat, automatiquement et irrémédiablement, pour l'acheter, il y a un engagement de travail. Il ne signe d'ailleurs aucunement son contrat. Mais à la lecture du préambule, que je vous mets ici, Kilumba apparaît comme un noble libre qui s'engage de sa propre volonté et en toute connaissance de cause, donnant à ce document sa validité juridique. Par ailleurs, ces individus ne sont pas seulement contraints à s'engager, captifs, ils ont été aussi achetés, donc par des agents commerciaux français autorisés par le gouvernement français, sur des marchés d'êtres humains de la région du comptoir français du Gabon, de la ville de Loango et sur la rive droite du fleuve Congo. Où il y avait, au milieu du 19e, c'était la rive droite du fleuve Congo, c'est là où se concentrait la majorité des marchés de captifs africains pour l'exportation outre-Atlantique. Traite qui était normalement illégale. Donc dans ces régions, l'achat d'hommes se fait au moyen de ce qui est appelé le paquet. Donc je vous ai mis un exemple de paquet ici. Donc c'est une monnaie de compte, en fait, qui correspond à une quantité donnée de diverses marchandises dites de traite, donc comme vous pouvez le voir. Là, ça correspond à un paquet pour l'achat d'un homme captif qui a été racheté en 1859 pour, je crois, la personne ira en Guadeloupe, il me semble. Donc voici, oui, je voulais vous montrer ensuite une carte des routes commerciales qui conduisaient les captifs au marché du littoral et aussi on voit les différentes populations de ces régions. Donc sur cette carte, le point rouge c'est Boma, c'est là où le plus de rachats ont été effectués par les recruteurs français et qui était vraiment le point central du commerce de captifs à cette période pour l'Afrique centrale. Donc on voit sur cette carte l'étendue des routes dans l'intérieur du continent. Et en effet, plusieurs sources soulignent que les personnes rachetées, des fois, proviennent de 300 à 500 kilomètres à l'intérieur du continent. Ce n'est pas du tout des gens du littoral, en fait. Donc les raisons de leur mise en captivité ou de leur mise en esclavage sont multiples. Certains agents font des enquêtes, donc on a des sources sur cela. Donc certains sont dits nés esclaves, donc sont nés dans l'esclavage. Plusieurs le sont devenus captifs suite à une condamnation judiciaire pour crimes ou des délits. Certains sont livrés pour payer des dettes de personnes de leur famille. Et d'autres sont aussi mis en captivité pour la vente par kidnapping. Donc, à leur livraison aux agents français, ces derniers sont auscultés avant le paiement complet de la transaction. En fait, c'est un système qui marche par avance. Donc, les acheteurs français livrent une partie du paquet des marchandises et l'intégralité est versée à réception des captifs. Donc, une fois livrés et acceptés par les recruteurs français, ils sont logés dans des établissements qui sont bâtis à cet effet en attendant leur transport outre-Atlantique. Donc, ainsi, on voit bien, pour acquérir de la main-d'œuvre, les recruteurs français utilisent les mêmes réseaux et les mêmes méthodes commerciales que ceux employés durant la traite et l'esclavage. Donc, si certains protagonistes français reconnaissent cette similitude, ils clament néanmoins haut et fort qu'une fois le captif acheté, sa prise en charge diverge radicalement de celle mise en place par les marchands négriers. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est. Là, je vous ai mis un dessin d'un des navires qui a conduit six contingents de captifs rachetés, donc de futurs engagés aux Antilles, qui s'appelait la Stella. Donc, pour éviter tout abus et assurer des conditions de voyage décentes aux futurs travailleurs, ces opérations sont placées sous la tutelle gouvernementale et sous une législation particulière. Mais force est de constater, à la lecture des nombreux rapports qui sont faits par les agents gouvernementaux, qu'à bord, donc au sein des contingents d'engagés par rachat, donc ce que j'appelle les rachetés, surpopulation, manque d'aération, mauvaise alimentation et aménagement non conformes au règlement sont la règle générale et entraînent des conditions de voyage dures, voire exécrables. Les taux de mortalité témoignent de ces conditions extrêmement difficiles, bien qu'on puisse constater sur la fin de la période une certaine diminution des taux et en effet dans les rapports une certaine amélioration des conditions de transport et de voyage. Outre les conditions matérielles, ils sont soumis à un grand nombre de pratiques visant à contrôler au maximum leur état physique mais aussi psychique afin que le plus grand nombre d'entre eux arrive vivant. Et ainsi de permettre aux recruteurs de toucher la prime d'introduction. En fait, les recruteurs touchés livrés, si on peut dire, aux Antilles et à la Guyane, une prime d'introduction. Donc le premier contact entre le racheté et ses acheteurs recruteurs français se fait par le biais donc, d'une auscultation complète de toutes les parties de son corps. Ce premier contact donne le ton en fait, de ce qui va prévaloir par la suite. En effet, une fois achetés, leur corps est soumis à une surveillance constante. Alors, aucun protagoniste ne décrit précisément le déroulement des auscultations qui sont quotidiennes, mais des informations portées sur des listes signalétiques, alors qui sont dressées au moment de l'embarquement, donc sur le littoral africain. Donc, vous pouvez voir, il y a le numéro d'enregistrement, il y a le nom, il y a le pseudo lieu de naissance, qui en fait vraisemblablement sont le dernier point. Le dernier village où ils ont été achetés, et les âges et aussi des marques signalétiques. Et dans ces marques signalétiques, donc j'ai pu retrouver trois listes comme celle-là, qui représentent à peu près 1500 noms. Donc dans ces marques signalétiques, on trouve dents abîmées, seins tombants, circoncis, tatouages, affection vénérienne. Donc cela nous permet d'affirmer qu'ils sont entièrement nus et que leur corps est régulièrement ausculté, qu'ils le veuillent ou non, dans son anatomie la plus intime. Un ensemble de mesures d'hygiène corporelle contribue aussi à perpétuer la dépossession de leur corps, puisque dès leur achat, ils sont immédiatement rasés et ils le sont à nouveau le jour du départ outre-Atlantique. Donc nus, lavés et auscultés à la vue de tous, il n'y a pas d'intimité. Aucune considération n'est portée donc à cette intimité ou par ce fait à ce qu'ils peuvent ressentir. Pour faire appliquer et respecter la discipline à bord, la violence tant physique que psychologique est utilisée donc sur la forme de punitions qui vont crescendo en fonction du délit et de la récidivité du contrevenant. Donc les premières punitions appliquées sont la privation des extras, comme par exemple le biscuit, les arachides, l'alcool et le tabac qui étaient donnés. Mais selon l'ensemble des protagonistes, ce moyen est peu efficace. Donc la discipline est apprise, entre guillemets, aux recrues par des atteintes physiques. Donc il est fait mention de coups de martinet, de coups de corde et de férule sur les mains. Donc la férule, c'était une plaque en bois et taper sur les mains. Donc face à cela, les rachetés réagissent. Donc à plusieurs reprises, les agents consignent dans leur rapport qu'à terre, des évasions, des tentatives d'évasion ont lieu et qu'en mer, des recrues se sont jetées par-dessus bord. Ils évoquent aussi plusieurs cas de ce qui est appelé à l'époque la nostalgie ou de consomption nostalgique. Ils parlent aussi d'anorexie grave et ils décrivent souvent des individus arrêtant de s'alimenter, de boire et se laissant mourir. Alors tous ne réagissent pas à la coercition de façon aussi radicale ou est désespérée. Certains composent aussi avec le système face auquel ils se retrouvent malgré eux confrontés. Utilisant parfois certains atouts, si on peut dire, certains maîtrisent le portugais ou des langues européennes et certains ont certaines compétences, par exemple, pour travailler à bord du navire et ils arrivent à obtenir ainsi une place un petit peu privilégiée dans l'organisation hiérarchique et en échange, ils ont un meilleur traitement, donc une meilleure alimentation, plus de vêtements, des choses comme ça. Alors, si ce système, de par la présence de l'État, et son organisation ne peut être assimilée stricto sensu à une traite de captifs, l'expérience des rachetés, elle, n'est vraiment pas très différente de celle des captifs qui se seraient retrouvés à bord de navires négriers. Alors, les conditions faites aux engagés africains de statut libre, les 7% dont je vous parlais au début, renforcent ce constat, puisqu'en effet, aucun n'est soumis à ce type de pratique qui ne concèdent donc ni intimité ni individualité. Ils ne subissent pas de visites médicales pré-embarquement, ou en tout cas elles sont beaucoup moins intrusives, elles sont individualisées et non collectives. Et on trouve trace qu'ils peuvent la refuser. Alors bien sûr, ça leur ferme toute possibilité de recrutement. Mais en tout cas, ils ont cette possibilité-là, ce qui ne se pose pas du tout pour les racheter. Par ailleurs, ils n'ont pas du coup l'obligation d'exposer leur corps nu. Il n'y a pas des auscultations quotidiennes systématiques. Ils n'ont pas la tête rasée. Ils n'ont aussi pas de médaillon autour du cou. Oui, j'ai oublié de vous dire, les captifs rachetés, en fait, ils avaient des numéros autour du cou avec des chaînes qu'ils ne pouvaient pas enlever pour les identifier. On ne trouve pas cela. Et ils n'ont pas non plus de pagne. Les rachetés avaient juste un pagne, tout le monde voit ce que c'est, des tissus, en fait, pour se cacher. Eux sont habillés, en fait, à l'européenne, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils ont des pantalons et des blouses de marins. Et les femmes ont des robes chez les libres. Donc on voit bien, il y a un traitement complètement différent. Et d'ailleurs, ces libres ne sont pas du tout soumis à la même discipline. Et il n'y a pas mention de coup de martinet ou de discipline. Alors, c'est une discipline comme il y avait à bord des navires. Donc la discipline à bord des bateaux, elle est dure, mais c'est absolu. Elle n'est pas du même ressort. Donc malgré ces différences qui sont d'importance, à leur arrivée dans les colonies, que ce soit les engagés africains libres ou ceux qui ont été rachetés, ils deviennent tous des immigrants. Donc, et sont soumis comme tels à la juridiction ayant trait à ce statut. Immigrant est vraiment le terme utilisé à l'époque et c'est une catégorie juridique. Et c'est un statut particulier, comme on va le voir maintenant. En effet, donc, bien que maintenant tous de statut libre, ils ne pouvaient pas en être autrement dans des territoires français après 1848 où l'esclavage est aboli, ils ne sont pas soumis ni au même régime que la population locale, mais ni même à celui d'étrangers qui arriveraient hors contrat d'engagement. Donc leur statut est celui d'immigrant, et cela va les placer en dehors du droit commun, parce qu'il est défini en fait par les deux décrets dont je vous ai parlé tout à l'heure de 1852. Vous avez une définition ici. Donc à ce statut est attaché un ensemble de droits et d'obligations différents de ceux d'un travailleur non engagé. Par exemple, pour pouvoir se marier dans la colonie, ils doivent obtenir l'assentiment du gouverneur et du conseil privé, qui était une des instances les plus importantes de la colonie. Pour juger l'affaire, ces derniers s'appuient sur les avis du commissaire de l'immigration, qui était la personne au sein de l'administration coloniale locale en charge de services de l'immigration, donc qui gérait les immigrants de toute origine géographique. Et donc, normalement, l'avis du commissaire de l'immigration, mais aussi l'avis de l'engagiste, donc de l'employeur, de la personne qui désire se marier. Et on trouve, j'ai retrouvé quelques traces de ces avis. Ça concerne toujours les mœurs et l'attitude envers le travail colonial de l'aspirant. Autre exemple, dans le domaine judiciaire, donc l'immigrant a une capacité juridique restreinte. Il est assimilé à un mineur civil, donc il ne disposant pas de la personnalité juridique. Donc il ne peut pas ester en justice par lui-même et il doit obligatoirement recourir à l'entreprise des syndics de l'immigration, donc qui sont organisés par commune, chargés en principe de leur apporter une assistance judiciaire et d'assurer leur protection. Enfin, dernier exemple, leur mobilité est fortement restreinte au sein même de leur colonie d'arrivée, puisque la législation précise qu'ils doivent se munir d'une autorisation écrite de leur engagiste pour pouvoir quitter l'habitation où ils vivent et travaillent sous peine de sanctions. Donc, on le voit, les immigrants ont un statut social et juridique d'exception qui va les suivre tout au long de leur engagement et même après. Ce statut les place dans une situation discriminante par rapport aux travailleurs locaux, non soumis à cette forme de travail. Et il les place aussi dans une totale dépendance vis-à-vis de l'administration et de leurs engagistes. Donc ces derniers les soumettent d'ailleurs à des conditions de travail et d'existence que deux mots résument, exploitation et misère. Donc ces conditions, je le rappelle, le logement, l'habillement, l'alimentation et les soins sont définies soit dans leur contrat d'engagement, soit dans la législation ayant trait à leur statut. Donc des membres de l'administration coloniale sont chargés de veiller au respect de ces prescriptions et à la protection des immigrants. Et ils font des rapports, ce qui est une grande richesse pour nous. Et en étudiant ces rapports, on ne peut que se constater que les abus, en fait, sont constants. Donc pour résumer, les immigrants africains, mais comme les autres immigrants, indiens et chinois, sont nourris à minima, sont souvent mal logés, mal vêtis et mal soignés. Et ils sont aussi fort mal payés. Donc le contrat d'engagement annonce, comme celui que vous avez vu tout à l'heure, 12 francs pour les hommes, 10 francs pour les femmes et 8 francs pour les non-adultes. Alors la catégorie non-adulte, en fait, concernait les garçons de 10 à 11 ans, de 10 à 13 ans, donc à 14 ans, ils passaient dans la catégorie homme-adulte. Et pour les filles, c'était de 10 à 11 ans, et à 12 ans, elles sont classées comme femmes-adultes. Ce salaire tel qu'il apparaît dans le contrat d'engagement, pour les racheter, est soumis à deux retenues particulières. Alors tout d'abord, comme le stipule l'article 6 du contrat que vous avez vu tout à l'heure, les immigrants rachetés remboursent en fait le prix payé par le recruteur pour l'achat de leur personne. Donc je cite, « L'engagé reconnaît avoir reçu en avance du représentant de M. Régis, c'était le recruteur, la somme de 200 francs dont il s'est servi pour sa libération et pour divers frais à son compte. Ces avances seront retenues sur ses salaires à raison de 3 francs par mois. » Fin de citation. Ainsi, l'administration ne se contente pas en fait, de les acheter, de les transplanter, de les transformer en engagés, elle leur en fait payer le prix au sens premier du terme. Donc la deuxième retenue consiste en une retenue de 1/10 de leur salaire pour payer leur rapatriement éventuel. Alors, outre son iniquité, en fait, cette mesure était illégale, puisque dans les décrets de 1852, comme je l'ai dit au début de mon exposé, le rapatriement était gratuit, en fait, était payé par l'administration. Donc la législation assurait la gratuité du rapatriement, normalement, à tout immigrant à la fin de son contrat. En fait, à un moment, il y a eu cette illégalité, en fait, va être mise à jour, mais je n'ai pas réussi à trouver trace si les immigrants... les engagistes avaient arrêté de prélever cette retenue. Donc on voit ici, malgré tout, un traitement encore différencié entre engagés africains de statut libre au départ et ceux qui étaient de statut captif au départ. Parce que ces deux retenues, alors évidemment celle pour le rachat n'a pas lieu d'être pour les libres, mais même la retenue sur le rapatriement à payer n'est pas imposé en fait aux engagés libres, d'ailleurs qu'ils soient africains, indiens ou chinois. Ce n'est que pour les racheter. Donc, au total, un homme immigrant africain de statut libre au départ gagne 50 centimes par jour, un racheté gagne 25 centimes par jour et une femme rachetée 23 centimes par jour. Pour vous donner une idée, le salaire du travailleur local à l'époque est de 1 franc par jour. Donc, on voit la différence. Et il faut ajouter que pour autre, enfin, avantage aussi pour les engagistes, donc les employeurs, pour tous les immigrants, donc quelle que soit l'origine et le mode d'engagement employé, la moitié des salaires était payée à la fin du mois et la moitié à la fin de l'année, ce qui donnait en fait une possibilité aux engagistes de payer après les récoltes faites. Mais ce qui diminue d'autant plus les salaires versés concrètement à la fin de chaque mois aux engagés. Donc le premier contrat d'engagement prend difficilement fin. En effet, la durée de l'engagement en fait, ne se calcule pas de date à date, mais en nombre de journées de travail effectuées. Les immigrants donc rachetés, qui sont engagés pour 10 ans, doivent donc 26 jours de travail par mois pendant tout le temps de leur durée d'engagement. Donc j'ai fait les calculs, ça vaut, enfin ils doivent 3120 jours dus. Alors cependant, la législation, oui là il faut que je vous dise que les engagés de statut libre africains s'engageaient pour eux 6 ans. Donc là aussi il y a une différence de taille. Mais la législation, donc là qui s'impose à tous les immigrants, prévoit que les jours de maladie et d'absence non justifiés seront décomptés, puis ajoutés en fin de contrat, et qu'en cas d'absence non autorisée, il y a une retenue de 2 jours au lieu d'un qui sera faite. Donc évidemment, la journée d'absence n'est pas payée et vous devez 2 jours. Les livres de compte sont tenus par l'engagisme ou un de ses représentants, mettant de fait les immigrants dans une forte situation de dépendance vis-à-vis de leur employeur. Selon les données que nous avons pu rassembler, les rachetés connaissent tous des temps d'engagement qui dépassent ceux prévus initialement, généralement de plusieurs mois, mais des fois ça peut aller de 1 ou 2 années en plus. Donc à l'issue de ce premier contrat, qui arrive quand même un jour ou l'autre, la très grande majorité des immigrants africains va en fait se réengager avec un autre contrat d'engagement, puisque les deux autres options proposées par l'administration, alors il y avait soit la personne pouvait rester dans la colonie d'arrivée si elle pouvait soit justifier d'une industrie, donc c'est-à-dire soit qu'elle soit propriétaire ou qu'elle avait une boutique ou une industrie, ou elle était rapatriée, ou sinon elle était tenue de se réengager. Mais en fait, le rapatriement, déjà ils n'ont pas, bon, comme vous pouvez l'imaginer, les moyens de s'installer. Et le rapatriement, qui était en plus pour les racheter pourtant payé, et dû par l'administration, n'a jamais été en fait proposé. J'ai trouvé aucune trace de rapatriement, excepté là encore une spécificité, en Guyane, où il y a 130 engagés africains de statut libre qui, eux, vont réclamer leur rapatriement au bout des 6 ans et vont rentrer en Afrique de l'Ouest. Mais c'est les seuls, et après, on ne voit pas trace d'autres rapatriements. Et alors pour les Antilles, la question n'est pas soulevée, elle n'est pas non plus demandée par les immigrants africains. En tout cas, c'est comme si le rapatriement était inexistant, en tout cas dans les archives. Par ailleurs, donc, quand ils sortent enfin du travail engagé, ils vont rester sous le statut d'immigrant, en fait, qui limite une des parties de leurs droits, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est un statut en fait qu'ils vont avoir tout au long de leur, jusqu'à leur mort en fait. Et c'est un statut qui se transmet à leurs enfants nés dans la colonie, puisque jusqu'à leur majorité, ces derniers sont soumis à une législation spécifique, enfin à la législation spécifique de ce statut d'immigrant. Alors ça, j'ai pas encore trouvé, mais je ne désespère pas de trouver de traces de est-ce que réellement à leur majorité ils sortaient de ce statut d'immigrant. Parce qu'ils avaient aussi des contrats, du coup, qu'elle est avec. Et voilà, donc je pense qu'il y a un flou qui permettait de les laisser, ces enfants qui, normalement, ne devaient plus être immigrants, encore immigrants. Et certains recensements de la population immigrante, on en a jusqu'en 1905, en Martinique, vu le nombre et vu les taux de mortalité que je vais vous exposer juste après, c'est sûr qu'il y a des enfants d'immigrants comptabilisés comme immigrants, donc sous ce statut, alors que normalement, ils ne devraient pas y être. Donc, du fait un peu de toutes ces conditions, les immigrants africains sont frappés par une mortalité extrêmement forte, comme vous pouvez le constater ici. J'ai pu calculer les premières 5 années de l'arrivée du premier contingent en colonie, et après, c'est les 10 ans. Et on voit aussi là très clairement une différence encore entre des engagés de statut libre et ceux rachetés, et avec des taux particulièrement élevés en Guyane. Alors, cette eau s'explique aussi par l'état physique et psychique dans lequel arrivent les individus. Parce que les engagés de statut libre n'ont pas du tout les mêmes maladies, les mêmes stigmates, ils sont plutôt en bonne santé, ce qui n'est pas du tout le cas des rachetés. Et là, oui, j'ai oublié de signaler cela. Aussi, les rachetés sont très jeunes, en fait. Ils ont entre 12 et 19 ans. C'est une population aussi qui est très jeune, mais qui est très marquée physiquement et psychiquement. Les engagés de statut libre ont entre 16 et 25 ans. Ils sont plus âgés. Et majoritairement des hommes pour les engagés de statut libre, alors que pour les rachetés, ça c'était dans les contrats des recruteurs, il y a à peu près 26% de femmes. Et cette catégorie de non-adultes, alors là, je ne peux pas calculer garçons-filles, je n'ai pas les chiffres, mais non-adultes, c'est à peu près 7%. Donc voilà, il y a quand même c'est aussi, voilà, ils n'ont pas les mêmes, c'est pas le même profil démographique aussi, ces deux courants. Donc abuser ou piéger, parce qu'il faut, alors, pour les racheter, là on est dans un cas d'abus où on n'aura pas du tout demandé leur avis. Par contre, ce que j'ai pu démontrer dans ma recherche, c'est que pour les engagés de statut libre, ils sont réellement volontaires à s'engager, sauf que clairement, vu leur... ils vont porter plainte, moi ça je vous en parlais, mais ils ont été floués sur les conditions de leur engagement. Par exemple, la plupart pensaient s'engager pour 1 ou 2 ans et pensaient travailler en ville où la grande majorité d'entre eux étaient marins. Et donc ils se retrouvent, la majorité en Guyane, dans des établissements minières, parce que l'or a été découvert en Guyane, ou encore dans des plantations, et ils protestent beaucoup en disant « mais nous, on n'a pas du tout signé pour des temps d'engagement aussi longs, il y a des contestations au niveau du salaire ». Donc on voit que clairement, ils ont, eux, été volontaires à s'engager, mais sur des informations fallacieuses. Donc, abusés ou piégés, donc d'immigrants africains vont chercher à faire respecter... leurs droits, ce qu'ils estiment être leurs droits pour les libres, et plutôt, il s'agit plutôt de la dignité pour les racheter. Donc les rachetés ne parlent ni le français ni le créole à leur arrivée, donc ils se retrouvent face à un monde complètement inconnu et effrayant pour eux. En effet, on a de nombreuses sources qui notent qu'ils étaient persuadés de l'anthropophagie des personnes à peau blanche, enfin dite blanche, et du coup, nombre d'entre eux, à leur arrivée, sont persuadés qu'ils ont été amenés pour être mangés. Et c'est des mythes d'anthropophagie, enfin ça il y a plusieurs études là-dessus, qui étaient fortement répandues le long du littoral africain. Donc eux, leur mode de résistance, en tout cas dans les premiers mois, voire les premières années d'arrivée, ça va être de fuir dans les mornes, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les montagnes ou dans l'arrière-pays, et de tenter d'y vivre en autonomie. Par exemple, en Guadeloupe, il y a 15 immigrants africains rachetés qui sont arrivés en 1859, qui vont quitter l'habitation où ils sont engagés. Ils vont aller construire un ajoupa sur les hauteurs d'une commune qui s'appelle Sainte-Rose, donc en dehors de toute habitation et de toute grande culture. Donc le gouvernement décrit, le gouverneur par contre, dans un de ses rapports, décrit leur établissement. Donc je cite, ces immigrants avaient emporté avec eux leur instrument de travail, ou coutelas, c'est un grand couteau, enfin une sorte de sabre, et s'étaient réfugiés dans les bois, avaient construit une case et s'étaient mis à défricher la forêt autour d'eux. Alors la plupart du temps, ils ne maîtrisent en effet surtout au début donc ni la langue ni surtout la géographie des lieux, donc ils sont souvent rattrapés. D'autant qu'il est mis en place quand même tout un arsenal pour essayer de les récupérer. Mais avec le temps et l'adoption en fait des codes linguistiques et sociaux de la colonie d'arrivée, et aussi l'exemple des autres immigrants, ils vont saisir des moyens légaux dont ils disposent, notamment porter plainte. Normalement, dans la législation, ils avaient le droit de porter plainte auprès du commissaire de l'immigration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais on voit aussi d'autres formes de contestation mises en place, comme par exemple des mouvements de grève, où à plusieurs, ils arrêtent le travail sur les habitations pour obtenir les deux principales plaintes vont être le salaire, mais aussi l'alimentation. Ils sont, voilà, ils contestent, ils sont mal nourris ou pas assez nourris. Et en fait, ces deux modes de contestation vont être ceux des engagés africains de statut libre, qui, eux, souvent maîtrisent, donc là, c'est aussi une grande différence, ils maîtrisent souvent le français ou l'anglais, parce que comme vous avez vu sur la carte tout à l'heure, il y en a un petit nombre qui est recruté à Gorée, qui est un comptoir français, et il y en a beaucoup qui sont recrutés à Freetown, donc qui est la capitale à l'époque de la Sierra Leone, et le long du Liberia, où il y avait déjà des Afro-Américains installés, donc qui parlaient, en fait... souvent l'anglais, et ils ont en général souvent déjà travaillé au service d'Européens, et souvent de l'administration coloniale, d'ailleurs française à Gorée ou anglaise à Freetown, pour la très grande majorité d'entre eux. Ce qui explique aussi qu'ils aient pu volontairement s'engager avec des Européens pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'à l'époque, il y a quand même une mémoire de la traite qui d'ailleurs est encore de façon illégale pratiquée par de nombreux Européens, qui est très vivace. Donc trouver des gens, d'ailleurs bon, c'est minoritaire hein, comme courant, qui étaient volontaires pour s'engager avec des Européens, c'était pas une mince affaire. Enfin, et pour traverser l'Atlantique. Donc on le voit, eux, les libres vont porter plainte beaucoup. On voit qu'ils connaissent en fait l'organisation un peu des administrations coloniales. Il y en a même qui vont directement chez le gouverneur, ce qui choque beaucoup aux Antilles et en Guyane. Il y a beaucoup de citations qui disent qu'ils sont très fiers et qu'ils sont vraiment impétueux. Et en fait, ils défendent vraiment leur droit d'égal à égal en parlant autour du contrat. Et là, c'est l'inverse qui se passe, comme en général, ils n'obtiennent pas gain de cause. Et que de nombreux nombre d'entre eux étaient marins, ils vont, dans un second temps, là, pour le coup, quitter la colonie de façon illégale et souvent par la mer. Et on en retrouve jusqu'à Trinidad, en Guyane anglaise, au Suriname à côté. Donc voilà, donc c'est deux façons de contester différentes. Mais d'une façon... Enfin, dans leur grande majorité, quand même, sans cesser de défendre donc leurs droits et leur dignité, ces immigrants africains vont aussi intégrer pleinement la vie de leur société d'arrivée. Et nous allons maintenant voir comment. Donc, comme vous l'avez déjà vu, il y a une grande différence un peu entre la Guyane et les Antilles, puisqu'aux Antilles, très majoritairement, donc 99% pour la Guadeloupe et 93% pour la Martinique, ce sont des immigrants rachetés. Alors qu'en Guyane, à 50%, ils vont avoir des engagés de statut libre au départ et des rachetés. Et alors, commençons par les Antilles. En fait, ces immigrants provenant du rachat vont en fait constituer un vaste groupe, si l'on peut dire, dans lequel chacun va être défini comme Congo. Et il y a une sorte de mise en place d'une identification commune et uniforme qui tient d'une part donc, à la spécificité de leur expérience migratoire, et de l'autre, à une certaine homogénéité géoculturelle, puisqu'en effet, nombre d'entre eux appartiennent au monde bantou. Alors, bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils viennent de régions très éloignées, donc le monde bantou, c'est plusieurs centaines de langues et de populations. Mais en fait, je pense qu'en Afrique, ce ne serait jamais dit Congo, puisqu'il y a pas, le Congo n'existe pas à l'époque, hein, il y a le fleuve Congo. Mais en fait, une fois aux Antilles, il va y avoir ce terme qui émerge. Alors, je n'ai pas réussi à trouver... On le trouve... à peine quelques mois après leur arrivée, utilisé dans les rapports de l'administration. On le trouve aussi dans la presse, mais je l'ai aussi trouvé employé par des immigrants africains eux-mêmes. Donc je ne sais pas qui a commencé à s'autodéfinir, enfin si ça leur a été imposé ou si c'est eux qui ont commencé à se définir comme ça. Et c'est un terme qu'on retrouve encore aujourd'hui aux Antilles, qui définit donc ces immigrants post-esclavagistes, mais aussi leurs descendants, en tout cas les premières générations. Et en créole, il y a plein d'expressions dans des chansons. On retrouve ce terme Congo pour les définir. Alors, en Guyane, on n'a pas du tout trace d'une identification collective comme ça. Ce qui s'explique parce que, vous l'avez vu, les immigrants africains sont recrutés dans des lieux très différents, entre quelqu'un originaire enfin, de Gorée ou en tout cas des royaumes wolofs, et quelqu'un du Liberia, à l'époque, il y a vraiment pas de point commun. En tout cas, on va avoir une diversité des identifications qui va être conservée. Et il n'y aura pas comme ça de nom qui va regrouper ces différents immigrants. Donc ça, c'est vraiment propre aux Antilles.
Mais chez tous ces immigrants, on va trouver des traces que leur langue, leurs croyances et certaines pratiques religieuses vont être maintenues et transmises, tout au moins en partie, aux plus jeunes générations. Et pour les nouveaux arrivants rachetés, la mémoire en fait, de leur pays d'origine, mais aussi celle de leur arrachement à celui-ci, est fortement présente. Tout d'abord, ils vont garder leur patronyme africain. Ça, c'est une grande différence avec les captifs arrivés sous l'esclavage. Et ce patronyme africain, comme vous avez vu tout à l'heure dans les listes, va devenir en fait, le nom de famille qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Par exemple, le Kilwamba, dont on a vu le contrat, si par exemple il a un fils qui va appeler Clément, il va s'appeler Clément Kilwamba. Ça devient le patronyme. Et certains, on voit dans les pratiques, ajoutent à leur nom officiel, c'est-à-dire au nom qui va être marqué dans le contrat d'engagement qui constitue la seule pièce d'identité de ces personnes à leur arrivée, on voit des fois un ajout d'un autre nom africain, par exemple comme Sundi dit Zimbu ou Makaya dit Goma. Et ça, vraiment, comme dans le contrat, il n'y a qu'un seul nom qui est marqué, à chaque fois, on peut supposer vraiment que c'est quelque chose de leur fait. Alors, et souvent, ils vont prendre au bout de quelques années aussi un prénom chrétien. Donc on trouve par exemple Makaya, Digoma, dite Rosalie. Il y a plusieurs noms comme ça. Or, ces pratiques soulignent l'attachement que ces derniers peuvent avoir avec leur pays d'origine, mais aussi la vivacité de l'identité qui peut s'y rattacher. Et enfin, leur lien à ce pays est aussi, enfin leur pays, est inscrit aussi pour nombre d'entre eux à même la peau. En fait, comme on a pu le voir tout à l'heure, ils ont des scarifications et ou des modifications dentaires. Donc il y en a plusieurs qui sont décrits avec les dents limées en pointe, ce qui se faisait dans cette région. Et ces marques leur rappellent donc leur appartenance à une communauté, mais tout aussi en signifiant leur statut ou leur rang au sein de celle-ci. Et certains portent encore aussi une marque de leur captivité, puisque certains ont été marqués au fer des initiales des négriers dits portugais auxquels ils ont appartenu en Afrique. Et dans les listes signalétiques, des fois, il y a indiqué, enfin, ils dessinent la marque des initiales desquelles les gens sont marqués. Donc ainsi, ces immigrants vont construire et aussi entretenir un lien avec leur passé, qui vont transmettre, d'une certaine manière, via leur langue, des récits et aussi des patronymes à leurs enfants. Et des récits qu'on retrouve encore quelques traces aujourd'hui. Bon, je développerai s'il y a des questions, mais je vois que le temps avance. Donc pour autant, si ces immigrants, et particulièrement ce qu'on va appeler les Congos, développent un univers qui leur est propre, cela ne signifie pas qu'ils sont en dehors de leur société d'arrivée. Et comme le note Joseph Souki et cinq de ses compagnons, dans une pétition qui est adressée aux membres du Conseil général en 1884, donc ils veulent obtenir leur prime de non-rapatriement, je cite, « Ayant renoncé à tout jamais au doux espoir du retour dans la patrie, la Guadeloupe étant devenue la nôtre, nous ne lui avons point ménagé nos labeurs et avons aussi contribué à sa prospérité. » Aujourd'hui, la plupart de nous y sommes devenus propriétaires et colons partiaires. Nous avons tous adopté le dogme catholique, ayant été baptisés, mariés, nos enfants fréquentent l'école. Donc c'est une pétition de 1884. En Guadeloupe, les derniers immigrants arrivent en africain en 1861. Donc on est quand même plusieurs longtemps après. Et donc en effet, les immigrants vont adopter relativement rapidement des pratiques sociales et culturelles de leur société d'arrivée. Alors la langue tout d'abord, ils acquièrent le créole au cours des deux premières années, en gros suivant leur arrivée. Alors la maîtrise du français est beaucoup plus rare et fort tardive quand elle advient. Et cela s'explique par le fait que cette langue, le français, est surtout l'apanage des milieux sociaux aisés, avec lesquels eux, comme les travailleurs créoles d'ailleurs, n'ont très peu de relations. Donc c'est vraiment le créole qui est la langue usuel. Et en effet, bien qu'ils vont perpétuer, comme j'ai pu le souligner, certaines pratiques ou croyances religieuses qui leur sont propres, cela ne va pas les empêcher d'adopter la foi catholique et de se faire baptiser. Alors j'ai pu faire quelques échantillons et j'ai trouvé des chiffres entre 15 et 20% d'entre eux qui se baptisaient. Et en tout cas, l'adoption, alors ce qui n'est pas forcément lié au baptême, mais d'un prénom chrétien est généralisée en fait après quelques années de séjour. Le mariage n'est pas un acte systématique et généralisé donc à l'ensemble de ces immigrants africains, et nombre d'entre eux en fait vont choisir le concubinage, mais en fait là, loin de se démarquer, ils suivent au contraire les pratiques matrimoniales des milieux ruraux populaires, la seconde moitié du 19e siècle des Antilles et de la Guyane. Or, soulignons quand même que aux Antilles, donc ce qui a ces immigrants qui sont appelés Congo vont se marier à 70% en Guadeloupe et à 83% en Martinique entre Congo, c'est-à-dire entre immigrants africains. Et en général, après plus de 15 ans en moyenne après leur arrivée. En fait, je vois qu'ils se marient en fait en général à la fin de leur contrat d'engagement de travail. Alors, j'ai pas encore vraiment d'explication, mais je vois quand même un moment où ça et autre différence en Guyane, donc au sein des engagés de statut libre, eux, le mariage est plutôt très précoce. Ils se marient quelques années, parfois d'ailleurs 1 ou 2 ans après leur arrivée, et eux, à 84%, avec des femmes guyanaises. Donc là, il y a une mixité qui n'est pas du tout le cas des personnes issues du Racha. Donc ainsi, ces immigrants ne vont pas rester en marge de leur société d'arrivée. Et rapidement, ils vont apprendre les codes linguistiques, culturels et sociaux, en fait, du groupe avec lequel ils partagent leur quotidien, c'est-à-dire celui des ex-esclaves. Alors rapidement, voyons maintenant quels sont les termes de leur rencontre, justement, avec ces ex-esclaves. Alors c'est une perception, la perception de la population locale de ces immigrants africains est difficile à appréhender précisément. Et cependant, au vu des sources, donc au cours de la seconde moitié du 19e siècle, qui est vraiment les sources que j'ai travaillées dans le cadre de ma thèse, quelle que soit la colonie considérée, les ex-esclaves ne semblent avoir ni animosité et ni empathie particulière à leur égard. En août 1861, on a le commissaire de l'immigration en Guadeloupe qui note que les immigrants africains, je le cite, restent assez longtemps isolés des travailleurs créoles qui le repoussent comme au-dessus d'eux. Mais il ajoute, lorsqu'ils se sont fait des économies, les répugnances cessent. Néanmoins, est souligné dans ces mêmes rapports quelques rixes entre immigrants africains et travailleurs locaux qui sont rapportés. Alors les motifs, malheureusement, pour l'historien, ne sont jamais explicités, mais ces rixes qui opposent en fait différents ateliers, donc des fois c'est différents ateliers de différentes habitations, ont probablement pour cause, sûrement en partie, des enjeux sociaux. En effet, comme vous avez pu le voir au début, ces immigrants cassent le marché du travail et mettent à mal les revendications des ex-esclaves qui sont appelés à ce moment-là les nouveaux libres. Donc on peut comprendre qu'il y ait des tensions, surtout quand il y avait des mouvements de grève de la part des esclaves. Il y a une pratique des planteurs d'amener leurs engagés pour les faire travailler, ce qui faisait que ça cassait les mouvements de grève. Mais aussi, il ne faut pas sous-estimer des conflits plus personnels qui peuvent être liés à des relations intimes entre hommes et femmes, ne sont pas à exclure. Et dans les archives juridiques, j'ai trouvé beaucoup de conflits qui sont entre immigrants ou entre immigrants et cultivaires locaux autour de disputes, on va dire, plus personnelles. Mais quelques temps auparavant, avant 1861 et la citation que je vous ai citée, en août 1860, on peut lire dans la Gazette officielle de la Guadeloupe, qui est le journal de la colonie, à propos de la fête nationale qui est organisée dans la commune de Mornalo, je cite, « Le premier vainqueur du mat de Cocagne était un Indien, donc un immigrant indien. Voilà que tout à coup, ses compatriotes, pour saluer le vainqueur, se sont mis à danser. Et la population noire, étrangère, donc les Congos, et créole, en a fait autant, l'entrain a été général. » Donc ainsi, bien n'étant pas exempt de tensions et de conflits, les ex-esclaves et les immigrants vivent ensemble, partagent les mêmes lieux de sociabilité et des élans communs. Alors néanmoins, ce vivre ensemble ne va pas aboutir, tout au moins aux Antilles, à une dissolution de ce groupe, ou en tout cas de l'identification de ces personnes, au sein de la population, et chacun de ses membres reste bien identifié comme tel. Mais être différent, ou en tout cas identifié avec un nom particulier, ne signifie pas forcément être exclu. Et comme on va le voir pour finir, les immigrants ne manquent pas de s'inscrire dans le politique. Alors, de par leur statut d'immigrant, qui les place, donc, comme je l'ai dit, en dehors du droit commun, ils se trouvaient exclus du droit de vote. Néanmoins, un certain nombre d'entre eux, donc là c'est pour la période qui correspond à la Troisième République. Parce que je rappelle rapidement qu'en 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage, il y a une égalité enfin, des droits qui est donnée pour les hommes des Antilles, donc les ex-esclaves hommes, et les citoyens de métropole. Et donc ils ont l'accès au droit de vote, mais qui est suspendu par le Second Empire, donc 1852, et ça va être rétabli par la Troisième République. Mais bien que les Antilles restent quand même dans une citoyenneté particulière, mais bon, ça, on détaillera après. Mais donc là, je parle vraiment pour la période de la Troisième République, et on trouve, en fait, dans les listes électorales, un certain nombre d'entre eux, donc d'immigrants africains, mais aussi indiens, qui sont inscrits sur les listes électorales de leur commune et qui votent. Et ça, on le retrouve pour les trois colonies. Et on les retrouve aussi participant à des grands mouvements sociaux. Et notamment, vous en avez peut-être entendu parler parce que Christine Chevallon a travaillé beaucoup là-dessus, sur l'insurrection du Sud en Martinique en 1870-71. Et il y a des Congos, en fait, dans cette insurrection, qui sont des mouvements sociaux et politiques importants. Ils y participent. Alors, pas tous, hein, mais évidemment, c'est pas en groupe. Donc voilà, ces actes soulignent pour moi la force de ces individus qui, bon, relégués toute leur vie dans un statut subalterne, ne vont pas se laisser enfermer dans ce statut et se saisissent de droits qui, normalement, leur sont interdits. Donc cette assimilation politique et non institutionnelle, qui n'est le fruit que de leur propre volonté et initiative, et de leur capacité à s'insérer en fait dans la vie sociale et politique de leur société d'arrivée. Et en effet, bien qu'exclus juridiquement donc de la citoyenneté, ces immigrants africains vont prendre pleinement leur place au sein de la société qui va devenir en fait au fil des années la leur. Voilà, je vous remercie et je suis prête à écouter vos questions. J'ai tenu le temps. J'ai surveillé l'heure. Un temps de discussion.
Merci. Merci infiniment pour cette très belle conférence qui soulève une foule de questions. Et déjà, premièrement, je ne veux pas monopoliser la parole et puis nous pourrons discuter, mais j'aimerais quand même, avant de faire tourner le micro, je pense utile peut-être pour le public d'expliquer comment, quand on est historien, historienne, on travaille sur des périodes donc, plus lointaines que celles dont on a l'habitude d'entendre parler ici, à Mendès France, et puis on reçoit finalement moins d'historiens. Enfin bon, c'est pas la question, mais je veux dire sur ces... Oui, dans ce cycle-là, je parle bien entendu sur les migrations. Et du coup, comment travaille-t-on sur des populations déplacées d'un continent à l'autre et pour des périodes aussi lointaines? Je pense que, bon, moi, c'est des questions que je rencontre également puisque je suis des populations déplacées aussi. Mais donc voilà, peut-être que pour le public, ça peut être intéressant juste rapidement de rappeler comment on fait pour travailler sur des zones d'archives pas forcément évidentes à localiser, ou voilà, sur quel bord vous vous situez, est-ce que vous remontez
Ouais. Alors là, pour ces migrations, enfin, ce qu'on appelle l'engagisme, comme c'est vraiment des migrations qui sont organisées par l'État et encadrées par l'État, il y a beaucoup d'archives qui ont été produites. Et alors déjà, bon, quand on commence à travailler sur... si on travaille sur des anciennes colonies, il y a incontournable les archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Et là, il y a des cartons qui sont appelés... bon, le terme de l'époque, c'est pas engagisme, c'est immigration réglementée. Donc voilà, en premier, on va voir ces cartons. Donc j'ai vu, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, comme je vous disais, il y a des agents qui sont des chirurgiens de la marine à bord des bateaux, donc ils font des rapports. Donc on a des dossiers, par exemple, pour chaque traversée, avec les rapports. Normalement, les bateaux, il y avait des commissions de contrôle dans les ports de départ. Donc c'est Marseille et Nantes. Donc on a tous ces rapports-là. Il y a toute la correspondance des gouverneurs, directeurs de l'intérieur, donc des colonies d'arrivée au ministère de la Marine et des colonies. Donc il y a déjà beaucoup de choses à Aix-en-Provence. Le ministère des Affaires... En fait, c'est... Donc là, j'ai pas abordé cet aspect-là, mais diplomatiquement, ça va créer énormément de problèmes avec le gouvernement britannique, cette immigration. Donc vous avez les archives du ministère des Affaires étrangères, maintenant qu'il y a Pierre Fitt. Non, à la Courneuve. Pierre Fitt, c'est les archives nationales, pardon. Et donc là, il y a aussi beaucoup de documents de discussions. Est-ce que c'est de la traite? C'est pas parce que les Britanniques accusent les Français de faire une traite illégale, enfin déguisée. Donc là, déjà, on a aussi beaucoup de matière. À Vincennes, vous avez tous les dossiers. Comme j'avais repéré que c'était les agents du gouvernement étaient tous chirurgiens de la marine, donc vous avez des dossiers personnels à Vincennes, aux archives de la marine. Et après, il y a les archives départementales. Alors là, je milite pour que tous les gens qui travaillent aillent aux archives départementales, parce que alors là, vous avez aussi énormément de choses. Et par exemple, les contrats. Alors là, je vous en ai pas montré, mais les contrats d'engagement d'engagés africains de statut libre, j'en ai retrouvé plus d'une centaine aux archives départementales de Cayenne, en Guyane. Parce qu'en fait, l'administration coloniale en Guyane va engager des immigrants africains, qui, pour l'anecdote, ont participé à la construction du bagne. Mais, et du coup, là, on trouve aussi beaucoup de correspondances à un niveau plus local. Donc, par exemple, des requêtes d'engagistes qui se plaignent au directeur de l'intérieur, des listes. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur place. Il y a et comme ça a fait, alors il y a déjà le fait que l'engagisme c'était géré par l'État, donc d'où voilà, c'est pas des migrations illégales. Et il y a cette polémique avec les Britanniques, donc ils veulent aussi montrer vraiment que c'est pas de la traite. Donc il y a eu aussi beaucoup de pamphlets, il y a beaucoup de presse autour de cette immigration par rachat. Donc voilà. Donc on...
et pour connaître après toutes les relations, toute la vie interstitielle en fait entre ces différents groupes, est-ce qu'il y a des mémoires, est-ce qu'il y a moyen, comment on saisit ce vécu
Alors c'est vrai que maintenant je suis, alors par exemple, je vous ai parlé des mariages parce que alors pour l'historien, c'est le fait que les immigrants africains devaient obtenir l'autorisation du conseil privé. Bon, du coup, en dépouillant tous les registres du conseil privé, j'ai pu faire des bases de données avec tous les mariages. Enfin, on les a, ils sont en bon état pour les trois colonies. Donc là, voilà, on arrive sur pour les mariages, j'arrive à avoir ça. Alors après, maintenant, mes nouvelles recherches sont beaucoup plus dans une micro-histoire et essayer de faire une prosopographie plus précise et justement essayer d'essayer de saisir plus comment. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un groupe ou c'est plutôt par atelier d'immigrants parce qu'ils ne circulaient pas tant que ça sur les différents territoires et justement, essayer de travailler aussi plus finement sur les rapports avec la population locale et même les engagistes. Et donc là, maintenant, je travaille sur les registres d'hypothèques pour travailler sur l'accès à la terre, ce que je n'avais pas fait pour la thèse. Les registres paroissiaux, parce qu'on voit les parrains, les marraines des enfants. Donc, par exemple, là, j'ai trouvé que ils baptisent les adultes. Et par exemple, là, j'ai trouvé dernièrement que l'engagiste, il y a un jour où j'en trouve, il y a 30 adultes, donc immigrants africains, qui arrivent le même jour et qui sont baptisés le même jour. Et le parrain, c'est l'engagiste, ce qui était des pratiques qu'on pouvait trouver sous l'esclavage. Et la marraine, c'est la femme de l'engagiste. Mais ça, c'est dans la première décennie. Après, je trouve encore des baptêmes d'immigrants adultes, mais après, je trouve qu'ils baptisent leurs enfants. Et là, on voit apparaître des témoins marraines qui sont eux-mêmes des immigrants africains. Donc, ça me permet d'essayer d'appréhender ces sociabilités ou leurs voisins, qui ne sont pas forcément des immigrants, mais on peut dire des Martiniquais. Donc, je travaille sur ces registres paroissiaux. L'état civil, que je dépouille. Donc, ça, c'est très long. Mais alors là, pareil, l'état civil, vous avez... je peux suivre les déplacements, les pratiques matrimoniales. Et par exemple, ce que m'a apporté vraiment... je suis revenue justement... Moi, j'ai eu le temps de le corriger entre la thèse et le livre. Mais quand je vous parlais de l'endogamie des mariages, où en effet, 80 et 70% en Martinique et en Guadeloupe, ils se marient entre immigrants africains rachetés. Donc j'en avais un peu déduit qu'ils étaient stigmatisés fortement de la population. En travaillant sur les états civils, vous pouvez saisir des unions qui se passent hors mariage. Si les pères vont reconnaître des enfants, or des fois la naissance, des fois c'est 10 ans, 20 ans après. Enfin, on peut saisir d'autres formes d'union. Et là, en fait, donc j'ai fait pour une commune du sud de la Martinique qui s'appelle Le Diamant. Là, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50% des unions qui sont entre immigrants africains, mais 50% des unions où les pères... ou même des mères, et les pères immigrants africains viennent reconnaître leurs enfants, sont des Antillais. Donc en fait, c'est plus l'institution du mariage qui, en effet, ça ne veut pas dire que ça annule complètement ce que je pensais, qui fait problème. Enfin, c'est pas un signe de promotion sociale d'épouser un immigrant africain. Mais après, ça veut dire que dans la vie, les gens s'unissent, se mélangent beaucoup plus. Donc voilà, état civil, registre par assaut, registre d'hypothèque. Et maintenant, je fais aussi des enquêtes orales auprès de ce que j'avais pas fait pour le 19e, où c'est quand même vraiment une étude aussi du système. Et là, des enquêtes orales où je fais, moi, des généalogies que je peux tracer, parce que dans les états civils, il y a marqué immigrant africain ou immigrant indien. Et après, comme il y a les noms, alors il y a un biais, hein, y en a que je perds, en fait. Mais du coup, je fais des généalogies, je rencontre des gens qui, en général, les gens font pas mal de généalogies aux Antilles. Donc on croise nos généalogies. Et puis du coup, après, c'est pas très vieux, hein, milieu 19e, donc c'est 4-5 générations. Donc il n'y a pas forcément des souvenirs de cette immigration spécifiquement, de langagisme. Moi, je m'attendais à trouver un peu ça. Je rêve de trouver une famille qui avait les contrats, tout ça. Mais en plus, bon, les contrats, je pense qu'ils ont été beaucoup gardés par les langagistes. C'est eux qui gardaient les contrats. Et ça, c'est plus difficile d'accéder à ces archives privées-là. Mais en fait, c'est plutôt... Donc il n'y a pas vraiment, pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai vu, une mémoire spécifique de cette immigration particulière. C'est un peu flou avec l'esclavage, tout ça. Mais par contre, il y a une mémoire de qui, à quelle génération il y a tel achat de terre, de ce que faisaient comme métier les gens. Donc ça me permet de travailler sur la mobilité sociale et tout ça. Voilà.
Et si je ne m'abuse, dernière chose, après je me... il n'y avait pas une forme d'engagisme européen aussi ?
Si, au tout début, en fait, dans les années 48, il y a des engagés européens, mais en fait, c'est plutôt des Madériens. Ils partent pas d'Europe. Ça, c'est au 17e et 18e. Là, il y avait plein d'engagés européens. Mais même après 48, en fait, il y a des projets pour faire venir des Européens, avec tous un discours civilisateur et tout ça. Mais alors, les planteurs étaient fortement opposés, parce que ça casse aussi l'image du blanc... et d'une supériorité qui, tant bien que mal, essaye de tenir. Et c'est plus des Madériens, mais en fait, ça ne marchera pas du tout. Donc, il y a quelques centaines. Je crois qu'il n'y en a même pas, en fait, une centaine qui arrivent en Guadeloupe. Mais très vite, c'est arrêté. La principale source d'engagés, c'est l'Inde. Hein. Vraiment, principalement. Et les Indiens, je ne sais plus, je vais en mettre les chiffres, mais... ils arrivent sur une période beaucoup plus longue.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
Attendez, madame, j'arrive.
Oui, excusez-moi, bonsoir. C'est une question un peu particulière. Les transporteurs, les négriers, parce qu'on va les appeler comme ça, on ne va pas tourner autour du pot, les négriers, ils avaient très peu de respect pour leurs marchandises, pour les acheter. Est-ce que vous avez observé s'ils avaient autant de respect pour les oranges, les fruits qu'ils ramenaient en Europe ou l'or ?
Écoutez, je n'ai pas travaillé là-dessus.
Parce que ce serait intéressant de voir quel respect ils avaient pour les marchandises.
Je pense que... Alors moi, déjà, je ne dirais pas que c'est des...
Vous défendez votre...
Non, je ne défends pas. Lisez mon livre, vous verrez que je ne défends pas du tout. Et puis là, je ne crois pas que je les ai défendus. Mais c'est parce que, si vous voulez, justement, moi, je me suis demandé, ces recruteurs, ma première hypothèse, c'était « Ah, c'est des gens qui viennent du monde négrier, qui ont fait de la traite négrière illégale ou légale avant. En plus, il y en a un qui vient de Nantes. » Donc j'étais partie là-dessus, donc j'ai cherché, j'ai travaillé sur leurs antécédents. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est des personnes qui sont, eux, plutôt dans la seconde colonisation. Donc, par exemple, la maison Régis, qui est celui qui a le contrat pour emmener 20 000 rachetés aux Antilles, lui, il est implanté à Ouida depuis déjà 1830. C'est un des premiers qui fait une factory qui fait de l'huile de palme. Et d'ailleurs, lui, il est vraiment après un acteur jusqu'à la fin du 19e de la colonisation. Pour la colonisation de l'Afrique, et plus juste avoir des comptoirs et tout ça. Parce qu'on est vraiment dans une période transitoire entre deux formes de colonisation. Et d'ailleurs, pour Federbe, que vous connaissez peut-être, qui est un peu le premier qui qui commence en fait la conquête territoriale avec enfin, ce qui correspond aujourd'hui au Sénégal, lui est très opposé à ces recrutements. Il y a vraiment des conflits au sein de l'Empire français et eux ils disent les Antilles c'est fini, l'avenir il est ici, donc les bras c'est ici qu'on en a besoin. Et en fait ces recruteurs-là, évidemment ils voient dans cette offre, ils voient dans cette possibilité, ils veulent gagner de l'argent. Enfin là il n'y a pas... mais c'est plutôt des gens qui appartiennent, ils appartiennent pas, c'est pas des vieilles familles négrières. Par contre, alors moi je me disais mais comment ils arrivent aussi facilement à aller sur des marchés d'êtres humains, qui c'est très codifié le commerce de captifs. Vous n'arrivez pas, les produits là, c'est et en plus ils ont pas, ils sont pas maîtres du marché à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de la rive droite du fleuve Congo, ils sont en concurrence féroce avec les négriers dits portugais, mais en fait les portugais c'est pas les du Portugal, c'est enfin c'est compliqué, c'est des élites métissées depuis plusieurs siècles qui tiennent ce commerce-là, et pour Cuba à l'époque, et Régis quelque part la prime d'introduction à l'arrivée, elle est bloquée, c'est 500 francs, donc il peut pas mettre, alors qu'un captif à l'époque qui arrive à Cuba, il peut être vendu jusqu'à 1000 francs. Donc il ne peut pas au départ, lui il ne peut pas mettre une somme, parce qu'en effet c'est du commerce, ils sont dans des logiques commerciales. Donc lui il essaye de trouver les bons produits, de négocier avec les courtiers pour avoir... Donc en effet on est dans un commerce d'êtres humains comme si c'était, si vous voulez, des pommes. Et en même temps pas tant parce que... Mais du coup ça fait réfléchir encore plus à comment ça peut fonctionner, que dire juste c'est des pommes, c'est qu'ils savent très bien en fait, ils l'ont, mais même les négriers ils le savaient. Il y a toute une prise en charge psychologique, si on peut dire. Mais après, l'intérêt, c'est pas forcément le respect de la personne humaine, c'est que les gens, il faut pas qu'ils se suicident. Là, le problème des suicides, c'est un vrai problème, puisque sinon, ils gagnent pas d'argent. Donc, ils emploient des gens qu'on appelle des bombas, c'est eux qui font la discipline qu'ont les martinets, mais c'est aussi des gens, il y a des pages là-dessus, il faut leur parler dans leur langue. Alors, ils parlent plein de langues différentes. Donc, c'est des gens qui sont polyglottes. Ils sont bien... Enfin, ils sont payés. Hein, c'est pas... Et bon, c'est des spécialistes, en fait, des contingents de captifs. Et ils leur font faire des pièces de théâtre. Enfin, c'est délirant, en fait. Ils les forcent à danser, alors, sous le fouet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est jamais pensé, c'est que les chirurgiens à bord, qui sont pas des gens du monde négrier, et qui disent, mais je comprends pas pourquoi ils dépriment, alors qu'on leur dit qu'ils vont aller dans un super pays. Ils leur font chanter des chansons dans leur langue. Enfin... Parce qu'ils savent que... donc, il y a tout, et sur, si vous lisez des récits de négriers, il y en a plusieurs qui ont été publiés, donc le capitaine Snellgrave, par exemple, il y a tout il y a une prise en compte, et c'est là où ils ne sont pas considérés en fait, comme des pommes et tout ça, parce qu'il y a une gestion entre l'équilibre, entre la terreur, il faut terroriser les gens, et aussi ne pas trop les terroriser, sinon ils avalent tous leur langue et ils meurent tous. Donc il faut leur laisser un petit espoir. Et c'est tout, mais ça, tous les systèmes de domination, sauf si vous voulez vraiment exterminer les gens, sauf si c'est Auschwitz, quoi, mais sinon, quand vous voulez exploiter quand même les gens un minimum, il faut trouver un équilibre. Donc, voilà, c'est là où ça me dérange de dire que c'est des pommes. Et quelque part, c'est encore plus complexe à penser que les gens savaient très bien que c'était des êtres humains et qu'il y a une gestion sordide de... que l'être humain, il se raccroche, enfin, même dans des situations les pires. Sinon, ça n'aurait jamais marché, en fait. Ils seraient tous suicidés.
Oui, s'il vous plaît, c'est des petites précisions. Moi, mes connaissances, c'est plutôt vers La Réunion. Et ce qu'on dit en général à La Réunion, c'est que l'engagisme africain s'est arrêté... En gros, quand l'engagisme indien s'est développé, donc une sorte de chose un peu mécanique. Apparemment, d'après ce que vous avez dit, c'est très différent aux Antilles. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, pour La Réunion, il y a un rôle important d'intermédiaire d'institutions religieuses qui souvent rachètent des captifs et qui les refourguent ensuite dans le pays où... Les engagés vont se rendre. Est-ce qu'il en est de même pour les Antilles et la Guyane? Et troisième et dernière question, est-ce qu'en Guyane, il y a des gens d'origine africaine qui ont rejoint les communautés marrons, puisqu'il n'y a pas de marronnage, enfin, il n'y en a plus en Martinique et en Guadeloupe, mais il en reste en Guyane. Voilà, ces trois questions.
Pour la deuxième, ça va être rapide. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'institution religieuse. C'est vraiment des commerçants qu'on est contraint. Donc, il n'y a pas, y a pas cette forme-là. Alors ça, je n'ai pas trouvé, moi, pareil, je m'étais dit, Guyane, parce qu'il y en a, et en plus, bon, il y a une continuité du terme, hein, il parle d'Indien marron, d'Africain marron, d'ailleurs, marronné, ça existe encore, ça s'utilise encore, il est parti marronné, mais bon, ça n'a plus le même sens, mais enfin, plus tout à fait. Et donc, du coup, je n'ai pas trouvé trace d'immigrants africains qui auraient rejoint les communautés Boni ou Saramaka, en Guyane. Par contre, il y en a, il y a des rachetés aussi en Guyane, et eux, ils disent qu'ils partent dans les bois systématiquement. Et donc, après, voilà, je ne sais pas, et je n'ai pas fait de tradition. Peut-être qu'il faudrait faire de la tradition orale au sein des Boni. Mais je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Jean Moumou, qui a fait une thèse sur les Boni. Et je lui avais posé la question. Lui, a priori, il n'avait jamais entendu parler spécifiquement de ces. Mais bon, il faudrait creuser. Et pour la première question, en fait, alors vraiment, c'est voilà, vous me permettez d'aborder un aspect que j'ai pas évoqué là, mais qui est très développé dans le livre. L'engagisme indien et africain est vraiment lié. C'est-à-dire qu'au départ, ils veulent des, enfin, ils, c'est les planteurs, les autorités coloniales veulent des travailleurs indiens. Et, mais ça, c'est même avant 48. Ils prévoient. Et les premiers arrivent en 53-54 aux Antilles. Le problème, c'est que la France n'a que 4 comptoirs en Inde. Donc, il y avait des problèmes diplomatiques énormes avec la Grande-Bretagne, puisqu'ils allaient toujours recruter sur des territoires britanniques. Et il y a des négociations qui s'ouvrent dès 48, quasiment, avec le gouvernement britannique pour obtenir l'ouverture des territoires britanniques indiens aux Français. Les Britanniques refusent. Donc, en 51-52, ils n'y arrivent pas. Et il y a Ducos qui a cette idée merveilleuse de dire on ne peut pas faire de pression. Il nous faut un élément de pression dans la négociation pour mettre la pression aux Britanniques, pour qu'ils acceptent d'ouvrir leur territoire. Il y avait eu des précédents avec le rachat en Afrique même, par rapport aux engagés attendus du Sénégal. Bon, bref, je vous passe les détails. Les Français, le gouvernement français savait que les Britanniques étaient fortement opposés au rachat, qu'ils avaient une opinion publique très abolitionniste et qui suivait ça de près, ce qui n'était pas le cas en France. Et du coup, ils mettent en place cette immigration par rachat. D'abord des libres, ils y vont doucement. C'est pour ça que le rachat est autorisé fin 1856. Au début, c'est que des libres autorisés. Et en fait, clairement, c'est écrit comme ça, c'est pour avoir une carte à jouer par rapport aux Britanniques. Et ça va marcher, parce que les Britanniques, du coup, c'est une polémique énorme. Mais ils jouent un jeu dangereux, hein, là, le gouvernement français. Donc, ils attendent la fin d'une convention, parce qu'il y a des conventions bilatérales pour la fin de la traite. Donc, il y a tout un tas de débats sur qu'est-ce que c'est que la traite, comment on le définit. C'est pas défini dans les conventions internationales, donc vous pouvez pas nous dire qu'on fait de la traite parce que nous, on les libère. Enfin bon, ça, c'est très passionnant, tout ça. Et en fait, ils vont signer une convention le 1er juillet 1861, ce qui explique la fin en 62, et qui ouvre où, en effet, le gouvernement français s'engage à arrêter le rachat. Et en échange, les Britanniques... Alors, c'est pas dit comme ça. Il y a 2 ans de débat sur les mots à utiliser dans le préambule, parce que personne ne veut montrer qu'ils ont, qu'ils ont fait une concession à l'autre. Mais en effet, cette convention ouvre les territoires britanniques indiens aux Français, d'où après le nombre d'Indiens. Et ça, c'est valable pour La Réunion aussi. À La Réunion, le rachat, ça s'arrête en 1859. Mais après... Le contexte est très différent, donc ça va continuer de façon illégale, de façon extrêmement forte, en fait. Et il n'y a pas l'impact imaginaire de l'Atlantique. On le voit aussi dans la polémique. C'est-à-dire que... Voilà, mais vous connaissez les travaux de Virginie Chailloux, ouais, voilà, qui a travaillé sur l'engagisme africain à La Réunion. Et voilà.
Non,
mais c'est dans l'imaginaire, en fait.
Dans l'imaginaire.
Oui, oui. Mais je veux dire, dans l'imaginaire européen, c'est-à-dire que traverser l'Atlantique était très marqué par la traite transatlantique. Dans l'océan Indien, l'illégalité dure beaucoup plus tard, avec les boutres. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas le même. Je parlais de cet imaginaire-là.
Oui, bonsoir. Merci pour la conférence, c'est très intéressant. Moi, je suis économiste de formation, donc tout ça, c'est un peu nouveau. J'avais quelques questions. En fait, déjà, si vous pouvez nous refaire un petit point chronologique, puisque tout ça a été mis en place après 1848. Alors, vous avez mentionné 1862, à un moment donné, vous avez mentionné 1905, je crois. Et pour savoir si ce système-là, lorsqu'il a été mis en place en 1848, est-ce que ça devait être un système transitoire ou est-ce un système qui était fait pour durer jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus. Donc voilà, c'est au niveau chronologique, comment ça s'est passé. Et est-ce que les esclaves d'avant 1848 ont eux aussi eu un système transitoire dans leur statut ou ils sont devenus ce que vous avez appelé les nouveaux libres voilà. Moi, je m'étais intéressé à un moment donné par rapport à ce qui s'était fait au Royaume, enfin, ce que a fait l'Angleterre 20 ans avant la France. Et la France, quand elle a réfléchi à toutes ces questions de l'abolition de l'esclavage, s'était inspirée des Anglais. Donc je voulais savoir s'il y avait aussi un parallèle au niveau du statut qui avait été donné aux esclaves, comme les avaient fait les Anglais précédemment.
Non, il n'y a pas de système. Alors, les Anglais, en effet, quand ils abolissent l'esclavage en 1933, et ça avait fait en 1934, il y a le système de l'apprentissage. Donc pendant plusieurs années, les esclaves libérés devaient rester chez leur maître. Mais en fait, bon, ça a un peu capoté, donc ça a duré moins longtemps que prévu. La France, c'est une de ses spécificités. Elle veut pas d'abolition graduelle. Ils appelaient ça l'abolition graduelle. Donc, en tout cas, c'est la Seconde République. Hein. Elle abolit et du jour au lendemain, les gens deviennent libres. Il y a pas. Après, ce qu'elle met en place, et ça, on le retrouve dans toutes les colonies. Enfin. Quand esclavagistes, quand il y a l'abolition de l'esclavage, ils mettent ce que je vous parlais de l'instauration du travail forcé. C'est ces décrets de 1852, mais il y a des premiers décrets, même quelques mois après 1948, il y a des lois contre le vagabondage, mais en fait, c'est des lois pour fixer les gens, pour limiter. Il y a plein de lois qui sont prises pour empêcher les gens, aux personnes d'acheter de la terre, mais aussi de produire des cultures vivrières. Plus vous avez de la terre petite, plus vous êtes taxé. Et plus vous faites des produits vivriers, plus c'est taxé. C'était une façon d'empêcher, de limiter en tout cas l'accès à une certaine autonomie. Donc il y a toutes ces lois-là. Et sur la chronologie, donc c'est 1848, il y a l'abolition de l'esclavage. L'engagisme, ça commence vraiment avec ces décrets de 1852. Et en effet, il n'y a pas de date de fin. En fait, qu'est-ce qui va faire la fin de l'engagisme? C'est quand les flux migratoires s'arrêtent. Donc pour l'immigration africaine, c'est 1859 en Guyane, 1861 en Guadeloupe et 1862 en Martinique. Et pour les Indiens, c'est dans les années 1884. Et en fait, c'est les Britanniques qui arrêtent, qui interdisent toute possibilité aux Indiens d'immigrer vers des territoires français. Et il y a seulement la Martinique qui va annuler toute la législation pour cette forme de travail en 83. En Guadeloupe, il laisse dépérir, en fait, il n'y a jamais de décret qui est pris pour interdire cette forme de travail non libre. D'ailleurs, dans ces décrets-là, ils reconnaissent que c'est du travail non libre. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas un statut de libre, hein, mais c'est comment ils. Enfin bon, c'est une autre définition. Mais du coup, c'est plus le fait de l'arrêt, de l'arrivée d'engagés qui fait la fin. Enfin, ça ne fait pas vraiment la fin du système, puisque les derniers Indiens qui arrivent en 84 en Guadeloupe, ils ont des contrats de 5 ans. Donc, vous voyez, l'engagisme, c'est plus. Enfin, ça dure plus que l'arrivée des engagés. Mais. C'est difficile de dater une fin. Pour la Guadeloupe, on pourrait prendre les années 20-30, où il y a un procès qui est connu, qui est le procès Sidambaram, où c'est des enfants d'immigrants indiens, donc qui normalement étaient français. Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, ça leur est contesté parce que pour des questions de pur calcul politique, il y a quelqu'un qui se présentait aux élections qui avait vu si on rayait des listes électorales. Tous les descendants d'immigrants indiens et africains, ils gagnaient. Enfin, c'était plus favorable. Donc, ils contestent leur possibilité de voter. et Sidan Baram va mener un procès et ça va être reconnu que c'était pas fondé en fait. Mais leur statut reste flou en fait. Pour les immigrants, ils le resteront toute la vie et pour leurs enfants, ça, il y a un flou, une sorte de flou juridique qui les précarise quoi.
D'accord, bonsoir. Mes félicitations en fait pour nous et merci beaucoup mieux que félicitations. Je pense que merci c'est beaucoup mieux pour disons. Je pense que félicitations ça va dans supérieur. Vous voyez ce que je veux dire. Merci.
Je prends, merci. Merci.
C'est bien. Donc ma question c'est concernant. L'abolition de l'esclavage, particulièrement il y a deux abolitions en France reconnues, c'est la première et la deuxième en 1948. Vous avez travaillé après cette période. Mais je me demande, entre principe et réalité, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs abolitions dans le système esclavagiste français, bon, au-delà de l'Amérique, parce que les colonies françaises d'Afrique, si... J'ose dire, c'est à partir de 1882, après le traité de Berlin. Mais malgré ce, on parle encore d'esclavage. Et autre question que je voudrais poser, c'est concernant, si on voit les chiffres des engagés, je vois que ça, on pourrait inverser, en fait, si on voit de manière numérique, les engagés arrivés dans les colonies françaises d'Amérique, plus les territoires sont grands, moins les engagés y arrivent. Ça me permet aussi de poser la question, est-ce que la Guyane, c'est pas comparable à la Guadeloupe ou Martinique, je trouve pas les mots, la rigueur de cet engagisme, si j'ose dire, est-ce que c'est pas plus dur en Guadeloupe et en Martinique, c'est ce qui a permis un peu des révoltes beaucoup plus, tandis que la Guyane est assez vaste. Alors je ne sais pas si une interprétation géographique ça passerait. C'est plus facile de se faire marron, comme il a dit, dans les forêts amazoniques en Guadeloupe.
Il faut savoir vivre dans la forêt amazonienne quand même.
Ah ben oui.
C'est pas donné à tout le monde. Mais en fait.
Oui, c'est fini, merci.
Alors, plusieurs abolitions. Oui, quand je disais abolition de l'esclavage, donc déjà, il y en a eu une première, en tout cas, qui n'a pas concerné la Martinique, puisque les colons ont fait alliance avec les Britanniques. Donc, il n'y a pas eu d'abolition. Mais en effet, il y a eu en Guadeloupe. Et à La Réunion, ils n'ont jamais fait débarquer le décret. Donc, il n'y en a pas eu non plus. Mais il y en a eu en Guyane et en Guadeloupe. Et donc, rétablissement par Napoléon. Et donc, 1848, oui, quand je dis abolition de l'esclavage, c'est dans... ces colonies, donc il n'y a pas encore de colonies. Il y a les colonies, c'est Gorée, Saint-Louis, il y a quelques comptoirs à ce moment-là, en 1948, il y a le comptoir aussi de Libreville, au Gabon, où là, il y a abolition de l'esclavage, en fait, dans ces comptoirs. Mais en effet, après, plus il y aura de conquêtes. Je crois que c'est en 1905, la dernière abolition de l'esclavage en Afrique occidentale. Je ne suis pas sûre de mes chiffres, mais en effet, après, il y a eu plein d'autres abolitions. Au fur et à mesure des conquêtes. Mais en 1848, c'est tous les territoires coloniaux français à ce moment-là. Il n'y a pas encore ceux en Asie. Après, sur la question de la Guyane, en effet. Alors, la Guyane, pourquoi le plus petit nombre, c'est que c'est une colonie. Il fallait de l'argent quand même pour faire de l'engagisme. Mais en fait, c'est une administration qui est assez pauvre. Donc le ministère lui refuse d'avoir plus de... Parce que c'est l'administration, en fait, c'est subventionné par l'État, en fait, ces migrations, mais du coup par les administrations coloniales locales. Donc c'est pour ça qu'ils ont moins d'engagés. Ils font aussi... Il y a le bagne qui est créé à peu près en même temps. Donc il y a aussi... Ils font le choix d'une main... Enfin, ils font le choix... l'administration coloniale fait le choix d'une main-d'œuvre pénitentiaire. Après, paradoxalement, là vous avez raison, mais c'est peut-être pas pour les mêmes raisons que vous imaginez, en Guyane, en tout cas pour les immigrants africains, ils vont avoir une plus grande flexibilité qu'aux Antilles. Pourquoi ? C'est en fait, il y a tellement peu de main-d'œuvre. Enfin, ça, la Guyane, c'est un problème éternel quasiment, enfin, en tout cas depuis. Que les Français y sont, c'est de peupler la Guyane pour tout le discours de la mettre en valeur et tout ça. Et en fait, il y a un tel déficit que l'administration coloniale va, comme je vous le disais, est le principal engagiste pour faire des marins, parce qu'il manque de marins, pour construire le bagne, pour faire des travaux de terrassement, de défrichement et tout ça. Et aussi, il y a la découverte de l'or. Donc, il va y avoir plein d'exploitations minières. Donc, il y a aussi quelques engagés qui vont pouvoir se saisir de ces opportunités. Mais les seuls endroits où j'ai trouvé des plaintes qui aboutissaient vraiment, c'est en Guyane. Parce qu'en fait, l'administration, elle a tellement besoin de bras que les engagés, alors c'est souvent de statut libre qui vont se retrouver sur une plantation, un peu éloignée de Cayenne, qui vont venir porter plainte en disant « mais nous, on est marins, on n'est pas venus pour travailler la terre, on ne sait pas ». En fait, l'administration est prête, elle rachète à l'engagiste le contrat et elle est prête à les embaucher. Donc il y a une sorte de l'administration est plus souple. Aux Antilles, vous n'avez aucun cas d'immigrants africains qui n'est pas dans la canne ou dans le cacao ou sur des habitations de production de produits coloniaux, en fait. Personne ne travaille pour l'administration aux Antilles. Et en effet, le territoire est aussi beaucoup plus restreint. Donc il y a moins de possibilités. En même temps, je vous dis ça, en Guyane, il y a eu énormément de fuites. Donc les conditions étaient aussi extrêmement... difficile. Et la fuite, elle n'est pas tant là parce que les fuites les plus nombreuses se font par mer. Et là, c'est vraiment lié au fait que les engagés de statut libre étaient quasiment tous des marins. Les rachetés, ils n'avaient jamais vu la mer. Ils viennent de l'intérieur du continent. Donc, eux, prendre une barque pour aller, à Sainte-Lucie ou à la Dominique, il y a quelques cas, mais c'est vraiment une minorité. En Guyane, il y a plus de la moitié des engagés de statut libre qui vont s'évader par la mer, en fait. Donc c'est pas tant le fait de la forêt amazonienne, c'est plus qu'ils ont des compétences de marins qui vont... Et l'autre élément, c'est que c'est que c'était des populations crew, ceux du Libéria, qui avaient déjà immigré en Guyane britannique. Et sur les bateaux de commerce, il y a en fait des réseaux de cette communauté. Donc ils savent que s'ils arrivent à arriver en Guyane britannique, il y aura des gens qu'ils connaissent qui vont leur permettre de travailler. Puis il y a des conflits, tout le monde essaye d'avoir de la main d'œuvre. Donc les Français disent qu'il y a des débaucheurs qui sont exprès envoyés aux Antilles et en Guyane pour aller dire aux immigrants indiens, africains et chinois qu'il faut venir dans les colonies britanniques, qu'ils seront mieux payés, qu'ils n'auront pas de contrat. Et enfin, après ça, c'est évidemment les Français, enfin les Britanniques disent que c'est faux, mais il y a quand même une sorte de lutte pour obtenir de la main d'œuvre qui peut donner quelque part une marge de main d'œuvre aux engagés dans l'illégalité pour fuir et retrouver à être employés dans une île britannique ou hollandaise au Suriname et tout ça. Voilà. Ah oui, si vous voulez, j'ai des ouvrages. À vendre, un tarif préférentiel.